APF France Handicap, des Hautes-Pyrénées, agit sur l'ensemble du département. Je suis aussi directrice du département du Gers, et donc on est là pour l'ensemble du département, l'ensemble des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, sur l'ensemble du département, qu'elles vivent en structure, qu'elles vivent à domicile, en famille, peu importe.
Nous allons parler de la semaine de mobilisation pour les mobilités et l'accessibilité, mais vous ne travaillez pas uniquement une seule semaine par an, rassurez-moi.
Non, on ne travaille pas une seule semaine par an et il y a de quoi faire. C'est toute l'année qu'on se mobilise sur ce thème-là, comme sur d'autres thèmes. Mais c'est vrai que la semaine prochaine, donc du 26 au 30, c'est la semaine nationale des mobilités et de l'accessibilité, un thème qui nous tient bien sûr beaucoup à cœur.
Et cette semaine, justement, elle est d'importance, mais il va y avoir donc des actions qui vont être mises en place spécifiquement pour cette semaine.
Alors, des actions spécifiques, c'est ce qu'on devait faire. C'est vrai que les nouvelles mesures nous ont un petit peu contraints de revoir, et donc on va être présent beaucoup près des médias, dans le vôtre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Nous devions faire une action que je dévoile, qui est retardée, qui s'appelait « J'en ai pour 5 minutes ». Et « J'en ai pour 5 minutes », c'est une phrase qu'on nous dit assez souvent, trop souvent. « J'en ai pour 5 minutes, je prends votre place de stationnement ». Et finalement, on a inversé les choses. C'est nous qui allions piquer, entre guillemets, la place des personnes valides en prenant des places le jour du marché, à Tarbes ou à Lannemezan. C'était en partenariat avec les deux communes, avec les deux municipalités, de façon à ce que le message qu'on nous envoie, eh bien, on le retourne aux personnes et qu'on fasse un petit peu le buzz.
Voilà, parce que justement, ce n'est pas uniquement un problème de moyens et d'accessibilité par rapport aux bâtiments, aux lieux publics, c'est aussi et surtout une question de civisme, et ça on y en reparlera par la suite. Quels sont les obstacles à l'accessibilité et à la mobilité au quotidien ?
Alors, les obstacles, vous mettez simplement en situation de handicap. Essentiellement, on va parler du handicap visuel, auditif ou du handicap moteur. Je rappelle qu'une personne en situation de handicap moteur n'est pas tout systématiquement en fauteuil roulant. Elle peut se déplacer avec un déambulateur ou avoir des problèmes de marche, de fatigabilité. Quand il s'agit de se déplacer, c'est un petit peu le parcours du combattant, bien souvent, même si, il faut le reconnaître, c'est normal, les choses s'améliorent. Il reste encore de gros points noirs. Le transport reste difficile, en dehors du transport adapté qui peut être mis en place dans certains périmètres, comme le Grand Tarbes. Aujourd'hui, se déplacer quand on est en situation de handicap, par exemple en fauteuil roulant, entre Tarbes et puis, on va citer Lannemezan, dites-moi comment on fait. Je n'ai pas vraiment la solution, si ce n'est de prendre un taxi adapté. Faut être un petit peu kamikaze.
De quelles bonnes pratiques peut-on s'inspirer ?
Alors, les bonnes pratiques, c'est d'abord la concertation. C'est d'abord de dialoguer, de comprendre comment on peut rendre un lieu, un trottoir, une voirie accessible, comment on peut trouver parfois des solutions ensemble, parce que la loi, elle ne fait pas tout. Il y a souvent une question de bon sens, et tout à l'heure, vous le disiez, je crois que c'est le bon sens. On a besoin, qui mieux qu'une personne en situation de handicap ou une association qui représente les personnes handicapées, peut être... C'est la mieux placée pour expliquer, pour parler. Et quand on n'est pas au fait, on ne peut pas savoir. Moi, il y a des choses que je ne sais pas parce que je ne suis pas concernée. Et donc, le pire obstacle pour nous, c'est de ne pas dialoguer, de ne pas se retrouver autour d'une table sur un dossier et de trouver ensemble les solutions. À partir du moment où on se parle, ça va mieux, déjà.
On va dire que le mot d'ordre, c'est la concertation.
La concertation.
Comment se positionnent les villes du sud-ouest, notamment Tarbes et Auch, là je vais plutôt parler de l'accessibilité des services publics, des lieux publics. Comment se positionnent ces deux villes-préfectures ? Quel est leur classement ? Même si c'est peut-être... pas trivial, mais assez incongru de parler de classement.
Alors, vous n'avez pas tort de parler de classement, puisqu'il y a eu un baromètre de l'accessibilité il y a quelques années qui a été fait. Bon, elles ne sont pas dans le top 10, dans le top 20 ou 30.
Alors, vous le regrettez, vous le regrettez parce que vous aimeriez bien que
ces villes
soient bien positionnées.
Bien sûr. Alors, ce sont des villes... On va commencer par le côté positif, parce que c'est ce que nous aimons aussi, c'est les bonnes pratiques, comme vous le disiez tout à l'heure, souligner ce qui va bien et servir d'exemple. Et je pense que c'est toujours mieux de dialoguer, de souligner ce qui va bien, et puis d'être dans le dialogue, ce que je disais. Donc ça existe. Nous avons des réunions régulièrement quand il y a des grands chantiers. Je vais parler de Tarbes, par exemple, avec la place au bois qui va être aménagée. On dialogue, on dit ce qui va pas, on fait des propositions, mais on est dans le dialogue. Donc là, on avance et puis on va dire que globalement, tous les nouveaux chantiers qui se font sont bien faits.
Est-ce que de la part de la municipalité, par exemple, Tarbes, on va parler d'Auch aussi, est-ce qu'il y a, lorsqu'ils envisagent des travaux, est-ce qu'il y a justement cette prise de conscience de vous appeler directement?
Oui. D'accord. Oui, oui, aujourd'hui c'est le cas. Alors, APF France Handicap n'est pas toute seule. On a la chance de faire partie, et c'est dans les deux départements également, d'un collectif. Dans les Hautes-Pyrénées, il s'appelle le collectif Access 65. On est aux côtés de trois autres associations, AVH, à l'association Valentin Huy, qui représente les mâles et non-voyants. Il y a l'association AFM Téléthon, qui est connue pour le Téléthon, mais pas que. Ils sont sur le terrain, ils œuvrent aussi beaucoup avec nous sur l'accessibilité. Et une autre association qui s'appelle Handispina, et qui, elle, accompagne les personnes atteintes d'une pathologie qu'on appelle le spina bifida sur le handicap moteur. Et dans le Gers, on a un collectif qui s'appelle le collectif Access Cible 32, nous sommes 6 associations, Rétina France, le handicap visuel, il y a également le JIP, le comité départemental handisport, on a également, et j'espère n'oublier personne, on a l'AFM Téléthon, APF France Handicap, on a l'association également Handicap Auditif. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on a été formés, on a appris nous aussi le handicap auditif, les besoins qu'ils avaient.
Est-ce que vous avez déjà rencontré, lors de votre parcours et de votre implication au sein de cette association, des élus qui étaient totalement hermétiques à ces besoins ?
Alors, hermétique, le mot est peut-être un petit peu fort, mais des élus pour qui ça n'était pas la première préoccupation ? Oui, mais oui, bien sûr, malheureusement. Oui.
Est-ce que vous avez des moyens de pression, justement, pour faire infléchir leur position ?
Alors, des moyens de pression, c'est compliqué, parce que on nous met souvent, trop souvent en avant des histoires financières. On nous met en avant aussi, on sait faire, donc ne vous inquiétez pas, on fait. Et puis ça, c'est vraiment deux choses assez pénibles, parce que c'est là qu'il y a des erreurs. On peut voir des passages bateaux qui ne sont pas faits, ou qui sont faits en dépit du bon sens, des travaux qui ne répondent pas aux normes. Bon, j'ai envie de dire quand même qu'il y a de moins en moins de réticence à prendre en compte la question de l'accessibilité, parce que imaginez-vous tout simplement avec une valise, avec une poussette, ponctuellement on fait du ski, il peut y avoir des accidents, donc on devient ce qu'on appelle une personne à mobilité réduite. Et une personne à mobilité réduite, finalement, c'est nous tous, à un moment ou à un autre. On a une valise ou une poussette, où on est un petit peu freiné dans ses déplacements. Et si vous avez la préférence, vous allez utiliser un plan incliné, un ascenseur, le passage bateau, des endroits. Et la ville, elle devient plus agréable à vivre dans ces cas-là, bien évidemment.
Globalement, vous constatez quand même une amélioration ?
Oui, on constate une amélioration, ce qui nous... Alors, on constate une amélioration, mais... Si je reviens à 2005, on a une superbe loi qui nous rebalaye tous les domaines de la vie des personnes en situation de handicap, et notamment la question d'accessibilité, avec une promesse. C'était acté dans la loi 2015, au 1er janvier 2015, tout, quasiment tout est accessible. On s'est réveillé le 1er janvier, on avait quand même un petit doute, le 31 décembre, je fais un peu d'ironie, c'était loin d'être le cas. Pourquoi ? Parce que cette loi, elle a été détricotée. Et on a accordé des dérogations, des délais supplémentaires. Et force est de constater que beaucoup se sont engouffrés dans la brèche. Il y a encore des secteurs compliqués. Les déplacements en train, ça n'est pas si simple que ça, loin de là. Je parlais des déplacements, même s'il faut souligner une concertation au niveau du transport. Par exemple, on participe à la formation des chauffeurs pour l'accueil des personnes handicapées dans les transports collectifs. Et d'ailleurs, ils nous disent eux-mêmes que c'est important, que le dialogue avec les personnes concernées, c'est important. Il reste des freins sur des bâtiments anciens à remettre aux normes accessibilité ou à trouver la meilleure solution, en tout cas. Il reste des freins également dans les mentalités. C'est-à-dire que l'accessibilité n'est pas qu'une question de construction, de normes, de loi, c'est la place que vous, moi, tout le monde, on laisse à la différence. qu'on laisse aux personnes, le respect du stationnement. On voit encore beaucoup de personnes qui utilisent ce qu'on appelle un macaron ou une carte, alors que la personne handicapée n'est pas dans la voiture, ou parce que on garde celle du grand-père qui est décédé, ou voilà, parce que j'en ai pour 5 minutes.
Ça, c'est vraiment un problème de civisme. On a parlé des lieux publics, de la voirie générale. Vous avez d'ailleurs brièvement évoqué le problème de moyens, qui pouvait être un obstacle pour certaines collectivités. En ce qui concerne les établissements privés, cette fois-ci, est-ce que ça rentre aussi dans votre périmètre d'action,
tout
dans
votre
champ d'action ? Et est-ce qu'il existe des aides, justement, pour ces établissements privés, pour faciliter l'accessibilité ?
Il en existe, oui. Et puis, pour les établissements privés, ils sont effectivement concernés au même titre que les établissements publics, dès lors qu'ils construisent, qu'ils rénovent ou qu'ils changent d'affectation. Et qu'ils doivent recevoir du public. On parlera dans notre jargon, c'est ERP, établissement recevant du public, alors que de la boulangerie à la salle des fêtes ou par des expositions, non, il ne faut pas employer ce mot-là, justement, mais ils le vivent parfois comme des contraintes d'accessibilité. Mais c'est pouvoir accueillir une clientèle aussi. Parce que nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens à part entière, avec l'envie de pouvoir aller acheter son pain là où on veut, d'aller chez le kiné là où on veut. Mais parfois, il faut encore plaider sur la nécessité que ces magasins soient accessibles. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut devenir accessible. Parfois, c'est vraiment compliqué. On accepte et on accorde des dérogations. On participe à des commissions publiques pour cela. Mais ayons un élan, un vrai élan, et ne subissons pas l'accessibilité comme quelque chose qui est un frein à notre développement.
Nous allons reparler de cette semaine donc des mobilités et de l'accessibilité pour toutes et tous. Vous l'avez dit, je pense que ce sera la thématique d'ailleurs pour cette année, les fameuses 5 minutes. Ce n'est pas uniquement une question d'équipement et d'adaptation du mobilier urbain, des lieux publics ou des lieux privés pour faciliter cette accessibilité. C'est aussi une problématique liée au civisme. Et en l'occurrence, quand il y a un problème, c'est plutôt au manque de civisme de certaines personnes. Donc comment marquer les esprits et comment vous allez mener des actions qui vont marquer les esprits justement pour inciter les gens à être beaucoup plus conscients en fait des difficultés qu'ils peuvent entraîner en prenant des places pour personnes à mobilité réduite.
Alors il y a cette action, j'en ai pour 5 minutes, c'est de prendre la place des personnes valides. On mènera aussi des actions, je ne vais pas forcément les dévoiler, mais je me rappelle d'actions où on a bâché des voitures qui étaient mal garées, par exemple, et on attendait que le propriétaire revienne.
Il y aura donc du happening.
Voilà. 135 € la place de stationnement indûment occupée. On pense aux places de stationnement, mais il ne faut pas se garer non plus sur un trottoir. Il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y a pas de personnes handicapées à côté de chez moi. J'en vois jamais. Je rappelle qu'une personne sur 6 est une personne à mobilité réduite, une personne concernée à un moment donné par des difficultés de déplacement. Donc c'est presque se tirer une balle dans la tête que de ne pas respecter les personnes à mobilité réduite. Il faut, on sera tous amenés à un moment donné, parce que ce qui peut nous arriver de mieux, c'est de vieillir et donc on courra moins vite, on aura des douleurs, on verra moins bien, on entendra moins bien. Donc il y a à respecter ces différences, mais c'est se respecter aussi soi-même. Et je pense qu'on connaît tous une personne en situation de handicap dans son entourage.